Fréquence banane. Les infos.
En Australie, après l'attentat qui a fait 15 morts et 42 blessés, le pays est en deuil. La presse tente de comprendre ce qui a mené à l'inimaginable et pointe les manquements du gouvernement dans l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. En Asie du Sud-Est, le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir bombardé la province de Siem Reap. Les deux belligérants ont fait l'état d'un nouveau bilan d'au moins 31 morts depuis la reprise de leurs affrontements frontaliers. Le ministre de l'information cambodgien accuse aussi, je cite, la Thaïlande d'avoir violé le droit international en attaquant des civils. Guerre en Ukraine. Après sa réunion avec les négociateurs américains, Volodymyr Zelensky rencontrera lundi des responsables européens alors que les discussions de paix se sont poursuivies entre le président ukrainien et la délégation américaine pour trouver un accord de paix en Russie. Sont attendus notamment le secrétaire général de l'OTAN, la présidente de la Commission européenne ainsi que les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède. En France, entre la dermatose nodulaire et le mercosur, la France est-elle à la veille d'une nouvelle récolte agricole massive? L'abattage systématique des bovins après la détection d'un foyer de dermatose a généré des manifestations et des blocages ces derniers jours. Une crispation amplifiée par la signature à venir de l'accord Mercosur, qui prévoit l'importation de viande outre-Atlantique. En Suisse, pour surmonter sa crise, le NIF se donne une double direction venue de l'interne. Le festival du film fantastique de Neuchâtel aura désormais une double direction artistique et administrative comme celui de Fribourg. Kate Reddy et Hugues Houmard piloteront l'événement qui célébrera sa 25e édition l'année prochaine avec un duo, le comité que préside le conseiller aux États Baptiste Urny, veut appliquer une gouvernance plus transversale et participative. Côté sport, les Suissesses sont championnes du monde d'uni-hockey. L'équipe de Suisse féminine a remporté dimanche la finale du mondial disputée à Ostrava en République tchèque en battant 2-0 la sélection du pays hôte. Son réel exploit avait été accompli en demi-finale samedi contre la Suède, 11 fois championne du monde. Ce titre est le deuxième remporté par l'équipe de Suisse féminine après celui de 2005 à Singapour, une très belle performance.
La météo.
Cette semaine dans la région de Lausanne, couvrez-vous bien, il va faire froid. Le temps restera sec jusqu'à vendredi, avec quelques rayons de soleil en fin de semaine. Les températures ne dépasseront cependant pas les 10 degrés. Du côté de Genève, la météo s'annonce très similaire, mais il fera un peu plus frais, surtout le matin. Alors n'oubliez pas votre bonnet et vos gants.
18h-19h, Micropolis.
Bonsoir tout le monde. Alors, ça y est. Les examens s'approchent et les bananes vertes sont presque mûres. Et oui, c'est déjà la dernière émission des bananes anonymes. Alors aujourd'hui, à la chronique, on a Liam et Timothée. Est-ce que vous êtes en forme ?
On est chaud.
Discutable, mais on va donner le max.
Et à la technique, cachée derrière les ordinateurs, on a André.
Bonsoir tout le monde. Ça va très bien. Un peu stressé, mais ça va très bien.
Pour l'animation, ça sera Alia et moi. Est-ce que tu es prête pour cette émission ?
Tout à fait.
Alors, heureusement, je dirais, il n'y a pas que les examens qui approchent. Avant, on a quand même le droit de célébrer un peu la fin de cette année, et pour certains d'entre nous, la fin de l'année, ça rime avec Noël. Et c'est de cette fête qu'on va vous parler ce soir. Alors, pour se mettre un peu dans l'ambiance, je vous propose d'écouter Rocking Around the Christmas Tree de Brenda Lee.
À l'approche des fêtes, je propose qu'on explore tous un peu les différentes manières qu'on a de fêter Noël à travers le monde. On a tous une idée bien précise de Noël, j'imagine. Et il est parfois difficile d'imaginer que cette fête puisse se vivre d'une manière totalement différente ailleurs dans le monde. Difficile, oui, mais aussi super intéressant parce que ces traditions sont le reflet des coutumes, de l'histoire et de la culture de chaque pays ou région. On commence avec le nord du Portugal, dans la région de Terra Fria. Une tradition ancestrale invite les garçons célibataires de 16 ans à parcourir les villages, vêtus de costumes colorés et masqués, accompagnés de musiciens. On appelle ça le Festival des garçons. Il débute au solstice d'hiver, du 24 décembre au 6 janvier. L'objectif est de souhaiter de bonnes fêtes aux habitants tout en récoltant des dons ou de la nourriture. Mais ce rituel a surtout une forte valeur symbolique, il marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Une fois la tradition accomplie, les garçons sont officiellement considérés comme des hommes. On prend l'avion direction l'Allemagne, ou plus précisément le Tyrol. Durant la période de l'Avent, et plus particulièrement la nuit du 5 décembre, il y a ce qu'on appelle la Krampusnacht. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, en fait, le Krampus, c'est une créature démoniaque mi-chèvre, mi-humaine, originaire du folklore alpin. Et ce soir-là, des personnes se déguisent en Krampus et défilent dans les rues pour effrayer les passants, et surtout les enfants. Super. Ils accompagnent Saint-Nicolas afin de punir symboliquement, évidemment, les enfants qui n'ont pas été sages durant l'année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt impressionnant, et par là j'entends terrifiant, parce qu'ils ont des masques vraiment assez complexes, assez sombres, de longues cornes, des chaînes et parfois des fouets. Voilà. Les parades sont parfois dignes d'un film d'horreur, bref, une ambiance chaleureuse à sa manière. Merci. On change maintenant complètement de continent pour nous rendre au Japon, où une tradition pour le moins insolite s'est imposée, c'est celle de manger du poulet frit KFC chaque veille de Noël. Ça peut surprendre, mais un chiffre pour vous donner une idée de d'à quel point c'est répandu. Environ 3,5 millions de familles japonaises se ruent chaque année dans la célèbre chaîne de fast-food. Cette coutume prend racine dans les années 70, lorsque KFC lance un de ses meilleurs coups marketing, avec un slogan pourtant très simple mais efficace, Kentucky for Christmas. Les chrétiens étant assez minoritaires au Japon, la population s'est appropriée cette alternative moderne aux traditions occidentales, et le résultat est plutôt... marche vraiment très bien, on a certains qui commandent leur menu plusieurs mois à l'avance. Changement radical d'ambiance avec la Thaïlande, où Noël prend des airs beaucoup plus sportifs. Dans certaines régions, le 25 décembre est l'occasion d'organiser des combats de boxe thaïlandaise, le Muay Thai. Les rings s'installent en plein air, parfois décorés de guirlandes ou de sapins improvisés, et les spectateurs se rassemblent pour assister au combat. Même si Noël n'est pas une fête religieuse majeure en Thaïlande, l'événement est célébré de manière festive et commerciale quand même, mêlant tradition locale et influence occidentale. Un Père Noël peut même faire une apparition entre deux combats, donc c'est un mélange assez surprenant entre coups de poing, musique traditionnelle et puis quand même esprit de fête. Pour conclure ce tour du monde, direction l'Australie, donc à l'autre bout du globe, où Noël se célèbre en plein été. Là-bas, pas de pull moche, ni de chocolat chaud au coin du feu. Le 25 décembre, c'est gros soleil avec barbecue, plage et crème solaire, évidemment, faut se protéger. Beaucoup d'Australiens fêtent Noël les pieds dans le sable, entre amis ou en famille, parfois même avec un Père Noël en short et en Havaianas. Les repas se prennent dehors, on échange les cadeaux sous 30 degrés, et certains vont même jusqu'à surfer, donc ça nous paraît très absurde, nous, ici en Suisse. Mais c'est une manière de célébrer les fêtes qui se cassent totalement avec l'image de Noël, qui est pourtant totalement normative pour eux, mais qui colle parfaitement au mode de vie local. On enchaîne avec une petite musique dans la continuité du thème, Snowman de Sia. Don't cry, snowman, not in front of me.
Comment mieux parler de la magie de Noël qui nous transporte en cette période de fin d'année qu'en parlant des contes de Noël ? L'origine du conte de Noël prend sa source dans les thèmes liés à la nativité et à l'histoire sainte, comme vous le savez certainement. Les contes de Noël commencent à circuler au Moyen-Âge et on y retrouve toujours les mêmes personnages. Des animaux dotés d'intelligence humaine et de parole, mais aussi des anges et des lutins. Les contes étaient avant transmis oralement uniquement, mais les fonds sont les mêmes. On mêle le miracle au merveilleux pour raconter une histoire lors de la veillée de Noël. On a souvent aussi des récits inspirés de saints, comme Saint Nicolas, qui accomplissent des miracles associés à Noël, souvent en mettant en scène la compassion face à la pauvreté, l'inégalité ou la marginalité. On voit que ces contes sont une sorte de miroir de la société, mais Noël est pour les chrétiens un espoir face à toutes ces problématiques, et l'enfance et l'innocence vont adoucir ces récits. On encourage la générosité, le partage et la chaleur humaine. Les contes de Noël vont permettre de mettre en avant ceux qui ont oublié tout le reste de l'année, et le merveilleux et l'imaginaire servent à faire passer des messages profonds sans être moralisateurs. On peut cependant voir dans les récits une différence entre avant et aujourd'hui. Avant, les morales étaient très marquées avec des valeurs religieuses. Aujourd'hui, les versions, elles s'éloignent un peu de ça et elles vont être plus laïques et commerciales. Et du coup, on peut se demander si cet aspect commercial ne va pas nuire à la magie de Noël qu'on recherche dans le partage familial et ancestral. Quoi qu'il en soit, adulte comme enfant, cela va permettre d'apporter du réconfort au coin du feu et ça donne envie de croire que le monde est encore bon avec de vraies valeurs. Pour terminer cette chronique en beauté, je vais vous proposer qu'on partage tous ensemble deux contes qui vont, je l'espère, vous plaire. J'ai sélectionné pour commencer un conte populaire ancien qui se transmettait par oral et c'est ce qui va expliquer que les versions elles peuvent différer puisqu'il n'y en a pas qu'une seule. Ce conte se nomme La Rose de Noël et je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a très longtemps, dans un petit village couvert de neige, vivait une jeune bergère pauvre appelée Marie. À la veille de Noël, tout le village se préparait à se rendre à l'église pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Chacun apportait un cadeau, des fruits, du pain, des fleurs rares, de l'or ou de l'encens. Marie, elle, n'avait rien. Elle n'était ni riche, ni savante, ni puissante. Elle n'avait que ses mains vides et son cœur plein de tristesse. En voyant les autres partir avec leurs présents, elle se mit à pleurer. « Comment puis-je honorer l'enfant Jésus si je n'ai rien à lui offrir ?» Alors qu'elle marchait seule dans la neige, ses larmes tombèrent sur le sol gelé. À l'endroit même où elles touchèrent la terre, un miracle se produisit. La neige s'écarta et une fleur blanche éclatante jaillit du sol. Une rose pure et lumineuse malgré l'hiver. Marie comprit que cette fleur était un don du ciel. Elle l'accueillit avec précaution et l'apporta à l'église. Lorsque la bergère déposa la rose devant la crèche, une douce lumière sembla illuminer la fleur. Tous comprirent alors que le plus beau des cadeaux n'est pas celui qui a de la valeur, mais celui offert avec amour et sincérité. Depuis ce jour, cette fleur qui éclot au cœur de l'hiver est appelée la rose de Noël. Ce conte rappelle que la foi, la bonté et l'intention valent plus que la richesse, et il met en avant les humbles qui sont souvent oubliés. Pour mon deuxième conte, j'ai voulu faire un peu un contraste et j'ai choisi un conte plus contemporain qu'on raconte aujourd'hui aux enfants et qui va plutôt s'éloigner de la religion. J'avoue que j'ai rencontré plus de difficultés à rechercher ce conte-là que l'autre, parce que tous les contes qu'on écrit actuellement, ils sont sous droit d'auteur, donc je vais pouvoir en faire un résumé fidèle sans dire le conte mot pour mot. Ce conte, il va se nommer « Le Père Noël perd la boule » et il a été écrit par Olivier Clerc. Cette année-là, au pôle Nord, quelque chose n'allait pas. Le Père Noël était énervé, très énervé. Les lettres arrivaient par milliers, les lutins couraient partout, les rennes se disputaient et le Père Noël criait « plus vite, on est en retard !» Il vérifiait les listes 10 fois, refaisait les paquets, recommençait tout. Plus personne n'osait lui parler. Même les lutins chuchotaient « Le Père Noël, il a perdu la boule !» Le soir de Noël arriva. Le traîneau décolla, mais rien ne se passa comme prévu. Un cadeau tomba dans une cheminée vide. Un autre arriva chez le mauvais enfant. Et à force de se presser, le Père Noël se trompa de maison. Il entra dans une petite cuisine où un enfant l'attendait encore, réveillé. L'enfant le regarda et dit simplement « Tu sais, tu peux t'asseoir si tu veux. » Le Père Noël resta surpris. Personne ne lui disait jamais ça. Il s'assit, il souffla. Et pour la première fois depuis longtemps, il se calma. « Pourquoi tu n'es pas pressé d'ouvrir tes cadeaux ? » demanda-t-il. L'enfant répondit « Parce que ce que je préfère à Noël, c'est quand tout le monde est là. » Le Père Noël sentit son cœur devenir tout chaud. Il comprit alors qu'à force de vouloir que Noël soit parfait, il avait oublié pourquoi il existait. Ce soir-là, il rentra au pôle Nord, réunit les lutins et dit « On va travailler moins vite, on va rire plus, et surtout, on va retrouver la joie. » Depuis ce jour, le Père Noël ne perd plus la boule, et quand Noël approche trop vite, il se rappelle qu'il suffit parfois de s'arrêter un instant. Sur ces doux mots, qui, je l'espère, vont vous inspirer en cette fin d'année mouvementée, on voit que même si le moyen n'est pas le même, le message de chaleur humaine reste le même au fil des siècles dans les contes. Je vais vous souhaiter du coup de très belles fêtes de fin d'année et je vais maintenant vous laisser avec une petite musique ukrainienne de Noël qui se nomme Shredik de Mykola Leontovich.
Et rebonsoir tout le monde, vu que Noël approche, je vous ai préparé un petit jeu de Noël. Alors chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à jouer avec nous, hein, bien sûr, mais évidemment ne trichez pas, sinon c'est pas drôle. On va faire simple, je vais vous expliquer d'abord les règles à tous autour de la table ainsi qu'à vous auditeurs et auditrices. Ça sera un test de rapidité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez une minute, je vous pose 12 questions, puisqu'on est en décembre et que c'est le 12e mois de l'année, à chacun d'entre vous. Une bonne réponse égale un point. Si vous arrivez à répondre à tout en moins de 45 secondes, en moins de 1 minute, pardon, et que vous avez tout juste, vous gagnez 5 points bonus. Mais vous allez voir, c'est très très dur. Donc déjà, essayez de répondre aux questions pour commencer. Si vous ne savez pas, vous pouvez évidemment me dire « passe » ou « je sais pas » pour passer à la prochaine question. À la fin, celui ou celle qui a le plus de points, il gagne absolument rien, à part le fait d'avoir la gloire éternelle de nous avoir tous défoncés en direct. Alors évidemment, c'est moi qui compte les points, je suis le maître suprême de ce jeu, et si vous êtes scandalisé par une réponse et que vous n'êtes pas d'accord, bah on se battra hors antenne. Le
avec
gagnant,
plaisir.
Il gagne toujours absolument rien, je précise, est-ce que tout le monde est prêt?
Oui.
Ouais, chaud là.
Alors, Alia, t'es prête? T'es à ma gauche, t'es la première.
D'accord, ça marche.
Ok.
Je fais le cobaye.
Alors attends, je vais juste me préparer un petit chronomètre et c'est parti. T'es prête? 3, 2, 1, top. Rouge ou vert? Couleur historique du Père Noël?
Rouge. Non, vert.
Vert. Pays d'origine du sapin de Noël?
Laponie.
Faux. Allemagne. Combien de rennes tirent le traîneau du Père Noël?
6.
9. Vrai ou faux? La chanson mythique de Mariah Carey est sortie en 1994?
Faux.
Vrai. Vrai ou faux, le rouge du Père Noël vient de Coca-Cola?
Oui.
Faux, ils l'ont popularisé.
Ah, mais ça y est, c'est bon, j'en ai marre.
En quel mois est célébré Noël?
Bah, décembre.
Oui. Objet le plus vendu à Noël?
Un sapin.
Des piles. Dans quel canton, trouve-t-on le marché de Noël de Saint-Gall?
Saint-Gall?
Oui, Saint-Gall.
Oh, tu m'as...
Quel animal remplace le renne dans certaines traditions islandaises?
Je sais pas, passe.
Le chat. Quel dessert italien est typique de Noël?
Les cannelloni.
Le panettone. Quel jour ouvre traditionnellement le calendrier de l'Avent?
Le premier.
Oui, c'est bien. Et vrai ou faux, le Père Noël a une adresse officielle?
Oui.
Vrai. Alors, Alia, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5 points. Ça fait, en vrai, ça fait une réponse sur deux, c'est très bien. C'est, je pensais pas que quelqu'un aurait 5 points déjà.
C'est vrai?
Ouais, franchement, ouais. Franchement, ça va. Mais vous avez vu les questions, ça va. J'ai pas fait un truc trop compliqué. Béatrice?
Oui.
T'es prête?
C'est parti.
Ok. 3, 2, 1, go. Quel est le dessert de Noël le plus connu en France?
Passe.
La bûche. Quel pays a inventé les guirlandes électriques?
L'Angleterre.
Les États-Unis. Quel animal est Rudolph?
Un renne.
Oui. Quelle couleur n'est pas traditionnellement associée à Noël?
Bleu.
Oui, bleu. quel objet, pardon, est accroché tout en haut du sapin?
Une étoile.
Oui. Vrai ou faux, Noël est fêté partout dans le monde?
Faux.
Ouais. Enfin, faux, enfin, c'est juste ta réponse. quelle boisson chaude française est typique de Noël?
Le vin chaud.
Oui. Quel mois précède Noël?
Quel mois
précède Noël?
Décembre.
Bah non, novembre. Vrai ou faux, les lutins fabriquent les cadeaux?
Vrai?
Oui. Vrai ou faux, le 25 décembre est férié dans tous les cantons en Suisse?
Vrai.
Vrai, et t'as plus de temps. Voilà, les deux dernières questions, elles compteront pas pour des points, mais on va voir si t'avais la réponse. Quel film d'animation de Noël met en scène Jack Skellington? L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ok.
Et vrai ou faux, le calendrier de l'Avent compte 25 cases?
Faux.
Faux, 24. Du coup, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, alors que t'as répondu qu'à 10 questions. Donc franchement, c'est très très bien.
Je me suis fait défoncer.
70% de réussite.
Franchement, mais tu sais que c'est chaud, hein. Il faut être efficace de fou. Liam, t'es prêt?
Ça me fait un peu peur, mais vas-y.
Ok, 3, 2, 1... Go. Dans le Grinch, Noël est fêté dans quelle ville?
Oh là là, j'ai pas la ref.
Ok, je passe, c'était Chouville. Vrai ou faux, le mot Noël vient du latin natalis?
Vrai.
Vrai. Combien de branches a une étoile de Noël?
5.
Oui. Quel pays mange de la carpe à Noël?
La Suède.
Non, République Tchèque. En quelle saison est Noël en Australie?
L'été.
Ouais.
Voilà.
Quel est le vrai prénom du Père Noël selon la tradition chrétienne?
Ouh là là, je sais pas.
Nicolas. Vrai ou faux, le Père Noël a une compagne officielle?
Vrai.
Vrai, la Mère Noël. Quel métal est offert par les rois mages?
De l'or.
Oui. Quelle langue parle officiellement le Père Noël en Finlande?
Je sais pas.
Le finnois. Quelle épice est très présente dans les desserts de Noël?
L'épice à pain d'épices.
C'était la cannelle. Non, c'était la cannelle. Quelle ville suisse est célèbre pour son marché de Noël au bord du lac Léman?
Montreux.
Oui. Et dernière question, vrai ou faux, les cadeaux étaient autrefois offerts le 6 décembre?
Vrai.
C'est vrai. C'est vrai, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points aussi. On a une égalité parfaite. On verra comment ça se passe à la fin. Vous vous battrez hors antenne, je pense.
Même nombre de points, mais après, on peut faire la justesse. Et techniquement, ouais, elle est plus juste, Béatrice, que
ouais,
Liam.
Parce qu'elle a fait moins, elle a répondu à moins de questions. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'es prêt, Timothée?
Allez.
Ok, 3, 2, 1, top. Vrai ou faux, les rois mages sont 3 dans la Bible?
Vrai.
Faux. Vrai ou faux, le 25 décembre est férié dans tous les cantons suisses?
Vrai.
Vrai. Comment appelle-t-on la période avant Noël?
L'avant.
Oui. Quel personnage de film vole Noël?
Le Grinch.
Oui. Vrai ou faux, la musique Jingle Bells a été écrite pour Noël?
Faux.
Ouais, c'est vrai, enfin c'est bien. Quel personnage accompagne le Père Noël en Suisse alémanique?
Aucune idée.
C'était Schmutzli. Quelle spécialité suisse à base de miel est consommée à Noël?
Je sais pas.
Le pain d'épices. Vrai ou faux, le Père Noël est parfois représenté comme un évêque?
Vrai.
Ouais. Quelle étoile guide les rois mages?
L'étoile du Nord.
L'étoile de Bethléem. Quel pays a pour tradition de manger 12 raisins à Noël?
Oh, ça m'énerve parce que je l'ai en plus. Mais je sais pas.
10 secondes, c'était l'Espagne. Vrai ou faux, Noël est la fête chrétienne la plus célébrée dans le monde?
Faux.
C'était vrai.
C'est pas
Pâques. Et cite-moi un pays qui fête Noël.
La France.
C'est vrai. Non, c'est Noël. Et puis pour les rois mages, en fait, c'est pas précisé le nombre qu'ils sont. C'est juste précisé qu'ils offrent 3 cadeaux. Et du coup, on part du principe qu'il y en a un qui offre un cadeau chacun.
Parce qu'on leur a quand même donné des prénoms aux 3 rois mages.
Je crois que, enfin, de ce que j'ai compris donc, quand j'ai préparé les questions, le nombre total des rois mages n'est pas précisé.
Ok.
Après, on peut accorder, si vous voulez, au demi-point.
Ok, et l'étoile de Bethléem, j'ai trouvé la question un peu bizarre, mais.
Du coup, c'est l'étoile de Bethléem ou pas?
Mais en fait, c'est juste que, genre. On précise pas le nom de l'étoile non plus dans la Bible, si on veut jouer sur ce point-là.
Ah mais il est en train de me gratter des points, je sais pas quoi faire.
Ah ouais, j'ai très envie de gagner.
En vrai, pour l'instant, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Est-ce que j'accorde un 7 points et je pose une question supplémentaire bonus, et le premier de vous trois qui répond gagne?
Ok.
Vas-y, on va faire ça, je pense.
Je peux pas répondre, moi.
T'es puni.
T'es puni. Ok. Attendez, il faut que je réfléchisse du coup. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ça va aller très vite, c'est très simple. Que mange-t-on traditionnellement à Noël en Suisse?
La fondue chinoise.
La fondue chinoise. Voilà. Ah, Béatrice a gagné. Voilà. Vous êtes nulle et elle est trop forte. Voilà. Et le grand gagnant de ce quiz, et la grande gagnante du coup, c'est Béatrice avec 8 points du coup. Elle gagne absolument rien, si ce n'est la fierté de nous avoir tous battus en public, même si moi je joue pas. Alors, Noël, c'est pas que les cadeaux, c'est pas que les guirlandes, c'est aussi l'hiver, le froid et la nuit qui tombe tôt. Donc, après ce quiz de folie, on va se calmer un petit peu et on reste dans l'ambiance hivernale. On vous laisse avec Blues d'hiver de Théodora.
On sera beaucoup à célébrer Noël dans un peu plus d'une semaine. Et bien que tout le monde ne fête pas ce moment de l'année, les sapins et les lutins ont envahi les rues, les magasins et pour certains nos playlists. Mais d'où nous viennent ces traditions de fin d'année? Noël, pour les chrétiens, c'est la naissance de Jésus. Je vous fais un petit récap de l'histoire de Noël pour ceux qui, comme moi, ne sont pas toujours au clair sur leur histoire biblique. Marie, choisie par Dieu pour porter son fils, est en chemin pour Bethléem avec son mari Joseph. Arrivés sur place, ils trouvent nulle part où s'arrêter, jusqu'à ce qu'un aubergiste leur propose de dormir dans son étable. Et c'est là que Marie donne naissance à Jésus. Tout cela se serait passé apparemment le 24 décembre, mais les historiens ne sont pas tous d'accord. Ce qui est sûr, c'est que cette période de l'année est célébrée depuis des milliers d'années. Un siècle avant la présumée naissance du Christ, les Romains célébraient les Saturnales en honneur de Saturne, dieu du temps, de l'agriculture, de la richesse et de la fertilité. Du 17 au 23 décembre, les normes sociales romaines étaient oubliées. On décorait sa maison de plantes vertes, on mangeait trop, on buvait trop et on échangeait des cadeaux, souvent des petites figurines de cire ou de terre cuite. Durant cette semaine de festivité, les esclaves étaient invités à la table de leur maître, ce qui était impensable le reste de l'année. Les écoles étaient en vacances, les exécutions interdites, on ne travaillait pas durant les Saturnales. Et la fin décembre a aussi été pour d'autres peuples l'occasion de fêter le solstice d'hiver. On peut notamment citer Yule, célébré par le peuple germanique et scandinave, qui mettait au centre des festivités la lumière et le feu. Durant cette fête, on faisait également des sacrifices et on servait des repas copieux, riches en viande, possiblement parce que les mois froids à venir, parce qu'avec les mois froids à venir, les animaux domestiques étaient abattus, faute de pouvoir les nourrir. Les druides celtes fêtaient eux aussi le solstice d'hiver pendant 2 jours en allumant des bougies et en décorant leurs maisons de houx et de gui. Vous l'aurez remarqué, toutes ces traditions tournent autour de lumière, de verdure, de nourriture en grande quantité et de convivialité. Des aspects encore très présents de nos jours dans les traditions de Noël, et c'est peut-être grâce au Moyen-Âge que ces traditions ont perduré. Durant cette période, Noël durait 12 jours. Et rimé avec musique, cadeaux et décorations, toutes des choses devenues la norme à cette époque. Tout le monde n'avait pas le droit au festin royal de 600 bœufs que s'est offert Henri III au XIIIe siècle, car contrairement au temps des Romains, les serviteurs n'étaient pas conviés à partager le repas de leur maître, mais ils auraient également pu célébrer cette période, plus modestement, avec des chants et des hymnes. Vous vous dites peut-être qu'il y a une des stars de Noël dont on n'a pas encore parlé. Le sapin. Et c'est pas avant le 19e siècle que le sapin commence à s'installer dans les maisons en incontournable symbole de festivité. Le sapin couvert de bougies et de cadeaux est traditionnellement d'origine païenne allemande, mais il a été popularisé par la famille royale britannique dans les années 1850. Et qu'en est-il du Père Noël ? Inspiré du personnage de Saint-Nicolas, c'est aux États-Unis qu'il devient le personnage emblématique qu'il est aujourd'hui. Comme notre vision moderne de Noël, qui est un mélange de plein de traditions religieuses et païennes, le Père Noël est lui aussi né d'un mélange culturel qui découle de l'immigration des Allemands et des Néerlandais des 18e et 19e siècles. Il est ensuite popularisé par des auteurs américains et il fait sa première apparition en chair et en os en 1890, quand un commerçant américain décide de s'habiller en vieux bonhomme à la longue barbe dans un manteau rouge. Bien entendu, il y a très clairement plein d'autres petites traditions et rituels qui ont donné naissance à Noël comme on le célèbre aujourd'hui. Mais que vous soyez chrétien ou non, que vous célébriez Noël ou non, j'espère que ce petit aperçu des anciennes traditions hivernales vous aura donné envie de profiter de ce moment de l'année en compagnie de votre famille et de vos amis, dans la joie et la bonne humeur, avec qui sait, peut-être un peu de neige. En parlant de neige, je vous propose d'écouter maintenant Let It Snow de Dean Martin.
Rebonsoir, on s'est juste trompé vite fait sur la chanson d'avant, c'était Never Let Me Down de Depeche Mode. C'est bon, j'ai bien dit ?
Je crois.
Ok, parfait. Alors moi, je vais vous faire une petite chronique. Je sais pas si les très jeunes oreilles veulent peut-être s'éloigner du micro, parce que je vais débunk Noël, en fait. Et le titre de ma chronique, c'est Le Père Noël contre la science. Chaque année, à la même période, tout le monde accepte un petit miracle. Un vieil homme barbu voyage dans le monde entier en une seule nuit, descend par des cheminées et distribue des cadeaux à des millions d'enfants. Et si la science devait analyser ça sérieusement, elle serait obligée de déclarer forfait parce que le Père Noël, dans notre réalité en tout cas, défie toutes les lois connues de la physique, de la biologie et même du bon sens. Commençons par l'essentiel, la livraison des cadeaux. Selon des chercheurs de l'université Dexter en Angleterre et de la NASA, et oui, c'est une vraie étude qui existe pour de vrai, si le Père Noël devait réellement rendre visite à tous les enfants du monde en une seule nuit, donc environ 800 millions de foyers, il devrait voyager à plus de 10 millions de kilomètres par heure. Alors je vous fais une petite comparaison, la lumière elle voyage à peu près 1 milliard de kilomètres par heure. Donc il faut pas qu'il dépasse la lumière, ça serait vraiment abusé sinon, mais à peu près 0,8% de cette vitesse, et même si ça paraît pas énorme, 0,8%, ça reste inimaginable. Alors, forcément il est soumis à quelques contraintes hein, à cette vitesse là. Typiquement sa lumière visible changerait de couleur à cause de l'effet Doppler, un phénomène qui est réel et qui est utilisé en astronomie et en radar typiquement, ce qui pourrait rendre Santa, ou le Père Noël, presque invisible ou multicolore à nos yeux. Et même si on continue à l'appeler Père Noël, et en fait il ressemblerait plus du tout à Père Noël, ce serait plutôt un arc-en-ciel flou qui file dans la nuit. Alors ça serait très beau, un arc-en-ciel de la nuit, mais pas de Père Noël. Et alors, on pourrait dire, ouais, mais il peut essayer d'utiliser les fuseaux horaires, il pourrait gagner du temps, comme ça. C'est vrai, il pourrait gagner environ 35 heures, mais le traîneau devrait quand même atteindre une vitesse supersonique. À cette vitesse, le moindre frottement avec l'air générerait une chaleur capable de réduire le traîneau et les cadeaux en cendres. Pas super sympa. Et le Père Noël lui-même, dans cette histoire, ben l'accélération subie serait équivalente à des milliers de fois la gravité terrestre, bien au-delà de ce qu'un pilote de chasse, par exemple, peut supporter, environ 9G pour le max, pendant une courte période de temps. Résultat, on aurait une pizza de Noël à base de Père Noël. Mais la vitesse, c'est pas le seul problème, il faut aussi porter toute cette charge, parce que, imaginons que chaque cadeau est hyper léger, ok, donc 10 grammes par cadeau. C'est en gros le poids d'une petite fraise. Ça rendrait le poids de la hotte à 800 millions fois 0,01 kg, donc 8000 tonnes. Je refais une comparaison, c'est 14 Airbus A380 pleins. Et je dis plein, c'est avec les gens dedans, avec le carburant, et il en a 14 sur le dos. Et puis il faudrait aussi une hotte plutôt grande, parce que, ok, donc supposons grâce à la relation volume est égale à la masse divisée par la densité, et que la densité de la fraise c'est grosso modo celle de l'eau, donc les fraises auraient un volume de 8000 m3, soit 3 piscines olympiques de fraises sur le dos du Père Noël, lui-même tiré par les pauvres rennes. Hein. J'espère qu'il les paye bien. Et on peut pousser un levier encore un peu plus loin, il faudrait combien de rouleaux de papier cadeau pour emballer tout ça? Et bien pour simplifier la tâche, supposons que la fraise est une sphère de 15 cm carrés. Avec une surface de 15 cm carrés, pardon. Et la surface d'un rouleau de papier cadeau, c'est grosso modo 14 000 cm carrés. Donc on fait un petit calcul pour les 800 millions de fraises, parce qu'il y a 800 millions de foyers, et ça nous donne 857 000 rouleaux de papier cadeau. Et pourtant, les actions en bourse des entreprises n'explosent pas, celles qui font le papier cadeau. Coïncidence? Je ne crois pas. La science de l'aérodynamique, de la biomécanique animale nous disent clairement que ça ne tiendrait pas, et pourtant, ce joyeux monsieur arrive entier, joyeux et toujours souriant. Ok, on peut se poser quelques questions et se dire, on va essayer de résoudre déjà le problème du temps. Et donc certains scientifiques ont émis l'hypothèse que le Père Noël manipule le temps lui-même, un peu à la manière de la relativité. Ralentir le temps autour de lui ou le dilater pour avoir suffisamment de secondes pour déposer chaque cadeau. Cela expliquerait comment il peut passer de maison en maison, manger les biscuits, boire le lait et repartir sans jamais se faire attraper par le moindre radar ou caméra de surveillance. Scientifiquement, c'est impossible pour un corps humain, mais la magie apparemment a ses propres règles. Ok, on a parlé d'un peu de tout ce qui entourait le Père Noël, maintenant parlons du Père Noël lui-même. Supposons que durant la tournée, chaque foyer lui a laissé, comme le veut la tradition, un petit verre de lait et on va dire deux biscuits. Donc le total, grosso modo, c'est 220 kcal par foyer. On multiplie tout ça par 800 millions. Et notre cher Monsieur Rouge a en tout absorbé 176 milliards de calories. Je fais un rapide calcul de conversion, conversion joule vers calories. Ah ! Le Père Noël a consommé 12 fois la bombe d'Hiroshima. Voilà ce qui peut expliquer qu'il a un ventre un peu rebondi. Alors, avec tous les éléments dits au-dessus, je pense que je peux vous affirmer clairement que le Père Noël n'existe pas, ou alors qu'il est donc une entité surnaturelle qui n'est pas régie à nos lois physiques, qui a des rênes supersoniques capables de supporter des charges absurdes et de couvrir des millions de kilomètres en un temps record. D'ailleurs, quand il se déplace, hein, c'est un arc-en-ciel en pleine nuit, et pour maintenir ce rythme, il consomme l'équivalent de 12 fois la bombe d'Hiroshima. Bon, au final, le Père Noël viole presque toutes les lois de la physique, défie l'aérodynamique, surcharge son métabolisme, mais manipule probablement le temps. Et pourtant, chaque année, nous laissons quand même des biscuits, décorons des sapins, écrivons des lettres et attendons patiemment son passage. Comme si devant ce spectacle, la science elle-même décidait de sourire et de fermer les yeux. Parce que la magie de Noël, ça ne rentre dans aucune formule, ça ne se mesure pas en calories, en kilomètres ou en secondes. Et c'est peut-être pour ça que, malgré tout, on continue d'y croire. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec Winter Wonderland de Laufey. Sleigh bells ring, are you listening?
Alors parlons maintenant un peu de Noël et comment on fête Noël. Déjà, je tiens à dire que moi, le Père Noël, quand il passe chez moi, c'est un verre de whisky qu'il boit, pas un verre de lait.
Ah oui, ok, ouais. C'est encore pire niveau calorique, le voilà. Lait.
Mais je sais pas si... je sais pas déjà, est-ce que chacun vous fêtez Noël ou bien est-ce que vous avez des petites traditions que vous savez sont un peu particulières à votre famille?
Bah pour ma part, alors oui je fête Noël, mais bah nous on a aussi, c'est plus un nouvel an qu'on le fait, mais ça peut arriver qu'on le fasse à Noël. Ce que je disais dans le quiz, c'est ce qu'ils font en Espagne aussi, ça nous arrive aussi de le faire au Portugal en tout cas, c'est de manger un raisin par vœu, on dit. Genre, on dit qu'on en mange 12 et puis chaque raisin correspond à un vœu. Après, il y a aussi juste les plats de Noël. Hein, je sais que moi, typiquement, je suis portugais, la plupart du temps, c'est de la morue à Noël. Moi, tant mieux, mes parents, ils suivent pas trop cette tradition, ce qui m'arrange beaucoup parce que je suis pas trop fan. Mais du coup, ouais, c'est... Mais par exemple, nous, on n'a pas trop le Noël en famille, grands-parents et tout. C'est plus genre petit comité, tranquille. Donc je sais pas si...
Alors, chez moi, on est très très famille. On fait toujours... on a toujours un sapin et tout. Et on fait attention à essayer de faire une fois par année des biscuits tous ensemble ou des trucs comme ça. Et puis c'est des moments qui sont très sympas tous en famille. Et mes parents, ils ont toujours été très investis pour le Père Noël. Je pense que c'est à cause de ça que j'y ai cru très longtemps. Et que j'étais tout seul à y croire et à me battre corps et âme.
T'avais pas Timothée pour te désoler.
Si j'avais, ouais, j'aurais pleuré, je pense, très longtemps si j'avais connu Timothée. Mais je sais que mon père, plusieurs fois, il s'était déguisé en Père Noël. Il avait fait semblant de se coincer dans la cheminée. On avait dû le tirer dehors. Et du coup, j'y croyais vraiment très très fort parce que je l'avais vu de mes propres yeux.
Super drôle.
Mais voilà, je trouve que c'est des anecdotes qui sont sympas et puis j'ai des bons souvenirs de ça. Maintenant, il ne fait plus ça, malheureusement.
Mais du coup, petite question comme ça qui vient, du coup, c'est vers quel âge à peu près que t'as arrêté de croire au Père Noël?
Mais je crois que c'était quand même genre j'avais 10 ans, quoi.
Ok. Enfin, ah oui, ça a duré quand même un moment, ouais.
Bah, d'ailleurs, il y a plus personne qui croyait.
C'est comment vous avez appris que le Père Noël n'existait pas? Est-ce que vous vous en souvenez ou... Parce que moi, je m'en souviens très bien, ça m'a traumatisé. Ah ouais. Moi, c'est vraiment juste un truc en mode, je voulais un cadeau quelconque, je plus, ça devait être une PS3 à l'ancienne ou un truc comme ça. Puis je dis à ma maman, « Maman, je vais demander une PS3 au Père Noël, un truc comme ça. » Puis elle fait, « Une console, t'es fou, tu crois que le Père Noël a l'argent pour t'offrir ça ?» J'ai fait, « Mais du coup, ça veut dire que le Père Noël n'existait pas, parce que je croyais que le Père Noël, c'était les lutins qui faisaient les cadeaux, du coup, il avait pas besoin d'argent. » Ouais, désolé pour les enfants qui nous écoutent. Bouchez-vous les oreilles, bouchez-vous les oreilles. C'est un peu trop tard, je crois. Non, mais sinon, les autres...
Ouais, non, moi très très tôt, on m'a dit que le Père Noël, il n'existait pas, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne assez religieuse, donc voilà. Et puis du coup, j'ai deux, trois petites anecdotes. Typiquement, on me raconte, moi je sais pas, je m'en souviens plus, mais quand j'étais petit, il y avait... justement, un croyant de l'église là où on allait qui a dit « Alors Timothée, t'es content ?» Il y a bientôt le Père Noël qui va t'amener des cadeaux, et puis je sais pas, et là je lui lâche une masterclass, je lui dis « Mais Noël, c'est pas la fête du Père Noël, c'est la fête de Jésus, quoi. » Et il était complètement choqué, mais je sais pas, j'avais 3 ans, quoi. Donc,
Le prêtre, il était choqué pas.
Perso, je sais pas si j'ai déjà cru, parce que j'ai vécu dans une famille mi-athée, mi-musulmane, donc bon, il y avait pas trop de place pour le Père Noël, on va dire ça comme ça. Mais je pense que quand j'étais petite, j'y croyais quand même. Et puis, je forçais justement ma famille à fêter Noël. Donc, on prenait un petit sapin, on mettait les cadeaux dessous. Mais bon, une fois que j'ai passé l'âge de 7 ans, je pense, 7-8 ans, on a arrêté. Et on a repris que récemment. Juste un peu parce que c'est une occasion de se réunir en famille, puis de faire un dîner convivial. Et j'aime beaucoup l'idée. Voilà.
Ouais. Alors, moi, je pourrais pas dire quand j'ai arrêté d'y croire. Mais je sais pas, nous, chez nous, le Père Noël, il passe encore presque. Il y a toujours quelques cadeaux en plus sur le sapin, donc ouais.
Non,
dans ma
mais...
tête, j'y crois encore un petit peu.
Non, mais je pense surtout Noël maintenant, enfin pour nous en tout cas, c'est plus un bon moyen de se retrouver tous ensemble, de faire un bon repas, de péter un peu le bide, et puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, moi, c'est à Noël, vraiment, je mange, mais je m'arrête jamais de manger, j'ai l'impression que c'est une folie. Voilà. Mais...
Oui, c'est plutôt un prétexte pour se retrouver en famille ou avec des amis et tout, plutôt que religieux. Ça a perdu un peu cette dimension-là au fil du temps, même s'il y a quand même ça derrière, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens où c'est plus l'élément essentiel de Noël.
Ouais, c'est...
Oui, clairement, ouais.
Simon ?
Moi, je peux rebondir sur le repas de Noël, si vous voulez. Est-ce que dans les familles des personnes qui fêtent Noël, est-ce qu'il y a type un repas type de Noël où ça change tous les ans ?
Ouais, nous en vrai, oui, c'est souvent. Tu sais, dans la tradition, ce serait du coup de la morue, mais bon, nous on fait pas ça. Nous, c'est plutôt un bon filet de bœuf avec une bonne sauce aux champignons et puis des petites pommes duchesses, des trucs comme ça.
Ouais, ok.
Je dirais fondue chinoise en fait, typiquement vu qu'on est en Suisse, ou alors tout type de fondue, ou alors raclette, mais du moment que c'est un repas qui rassemble un peu les gens, c'est ce qu'on choisit.
Un repas masto,
c'est trop cool.
Ouais, nous, chez mes grands-parents, c'est souvent, on fait à la britannique, donc on a plein de petits plats différents, de toutes sortes, et on mange toujours trop.
Moi, il n'y a pas de repas type, chacun fait un peu... Enfin, comme on ne fait pas toujours chez les mêmes personnes, chaque personne, quand elle reçoit, elle fait ce qu'elle veut. Mais les dernières années, on avait fait où, en fait, on faisait un peu canadien, où chacun ramenait des choses et du coup, on partageait, c'était sympa. Voilà.
Ok.
Ok, ouais.
Et après toutes ces discussions sur Noël, je vous propose d'écouter un bon vrai classique, Last Christmas de Wham.
Bon, sur ce, on va malheureusement se quitter, mais j'ai quelques derniers mots à vous toucher. C'était notre dernière apparition sous le pseudonyme des Bananonymes. Je pense que je vais un peu regretter ce magnifique nom d'équipe, si bien trouvé et si évocateur. J'ai vraiment aimé vivre cette expérience. C'était complètement nouveau pour moi, donc très expérimental, mais j'en ressors et on en ressort plus instruit. On a appris toutes sortes de choses. En radio, mais aussi des mots insolites, les origines de certaines traditions, des histoires sur la cuisine, des films, ou même comment devenir Miss France, ou en partie. Alors j'aimerais féliciter chaque membre de l'équipe pour son énergie, ses idées et sa présence à chaque émission. Tout le monde a su apporter quelque chose de spécial au groupe, chacun son étincelle, et on a vraiment passé de super moments derrière nos micros et nos écrans, alors un grand bravo.
Bravo tout le monde, on s'applaudit ?
Ouais, je pense qu'on peut s'applaudir.
GG.
Mais du coup, qu'est-ce que vous, membres de Bananonyme, vous avez pensé de cette aventure ? Un mot à dire ? Qui veut commencer ?
Qui se lance ?
Moi, j'ai trouvé ça...
Vas-y.
J'ai trouvé ça vraiment très sympa, j'avais jamais pu tester avant, mais c'est un peu logique en vrai, parce qu'il n'y a pas d'autre contexte, voilà. Et j'ai trouvé que vous étiez très sympa, et que c'était facile d'être à l'aise et de ne pas se sentir forcément jugé. Et aussi, petite dédicace spéciale à Chloé, notre bananière qui était très...
Ouh, on en applaudit Chloé.
Let's go.
C'était trop bien, c'était trop bien. Franchement, moi, c'était un peu un rêve depuis de faire de la radio. C'est toujours un rêve, d'ailleurs, mais c'est ce qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a le plus rapproché de ça. Et puis, continue, on n'oublie pas que c'est pas notre dernière émission. C'est notre dernière émission ensemble et en tant que bananonyme, mais potentiellement... au semestre qui vient, suivez bien Fréquence Banane, parce que normalement on va tous se retrouver à des moments et à des endroits différents, mais on sera là si tout va bien. Mais c'était trop cool, genre on avait vraiment un groupe qui était carré, il n'y a jamais eu de problème d'orga, on a toujours réussi à s'organiser, à trouver des bons thèmes. Je trouve qu'il n'y a aucune de nos émissions qui s'est mal passée, franchement, merci déjà, parce que c'était genre trop cool, et ça rend l'expérience forcément meilleure d'être avec des gens qui sont investis et qui font des bons trucs, quoi. Genre, il n'y avait pas une seule chronique, une seule partie d'un Café Kawa qui n'était pas intéressante. Et franchement, merci. Et puis, trop bien. Voilà.
J'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'était une super expérience. Et puis, j'aimais bien avoir nos petits projets comme ça, que chaque semaine, on devrait préparer et tout. Donc, c'était une bonne expérience.
Moi, j'ai trop aimé, là. Chaque semaine, il y a des chroniques. Tu sais pas ce que les autres y font. Tu vois juste les titres. Tu vois, genre, les pires traditions de Noël ou des trucs comme ça. Et t'es en mode, j'ai trop envie de savoir ce que c'est. Puis à chaque fois, je n'ai jamais été déçu. Trop content, du coup, d'avoir vécu ça avec vous. C'était hyper sympa. Puis en espérant que ça continue aussi bien dans la suite.
Bravo tout le monde.
Bravo. On peut solliciter, je pense.
Ouais.
Bon. Pour terminer en beauté, je m'adresse à vous, chers auditeurs et auditrices. Je vous souhaite la réussite et la santé, et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux concepts. Gardez la banane, joyeux Noël et bonne fin d'année.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Fréquence Banane, les infos.
En Australie, après l'attentat qui a fait 15 morts et 42 blessés, le pays est en deuil. La presse tente de comprendre ce qui a mené à l'inimaginable et pointe les manquements du gouvernement dans l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. En Asie du Sud-Est, le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir bombardé la province de Siem Reap. Les deux belligérants ont fait état d'un nouveau bilan d'au moins 31 morts depuis la reprise de leurs affrontements frontaliers. Le ministre de l'Information cambodgien accuse aussi la Thaïlande d'avoir violé le droit international en attaquant des civils. Guerre en Ukraine. Après sa réunion avec les négociateurs américains, Volodymyr Zelensky rencontrera lundi des responsables européens, alors que les discussions de paix se sont poursuivies entre le président ukrainien et la délégation américaine pour trouver un accord de paix en Russie. Sont attendus notamment le secrétaire général de l'OTAN, la présidente de la Commission européenne, ainsi que les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède. En France, entre la dermatose nodulaire et le Mercosur, la France est-elle à la veille d'une nouvelle récolte agricole massive ? L'abattage systématique des bovins après la détection d'un foyer de dermatose a généré des manifestations et des blocages ces derniers jours. Une crispation amplifiée par la signature à venir de l'accord Mercosur, qui prévoit l'importation de viande outre-Atlantique. En Suisse, pour surmonter sa crise, le NIF se donne une double direction venue de l'interne. Le festival du film fantastique de Neuchâtel aura désormais une double direction, artistique et administrative, comme celui de Fribourg. Kate Reidy et Hugues Houmar piloteront l'événement qui célébrera sa 25e édition l'année prochaine. Avec un duo, le comité que préside le conseiller aux États Baptiste Urny veut appliquer une gouvernance plus transversale et participative. Côté sport, les Suissesses sont championnes du monde d'uni-hockey. L'équipe de Suisse féminine a remporté dimanche la finale du mondial disputée à Ostrava, en République tchèque, en battant 2-0 la sélection du pays hôte. Son réel exploit néanmoins avait été accompli en demi-finale, samedi contre la Suède, 11 fois championne du monde. Ce titre est le deuxième remporté par l'équipe de Suisse féminine, après celui de 2005 à Singapour, une très belle performance.
Fréquence banane, la météo.
Cette semaine dans la région de Lausanne, couvrez-vous bien, il va faire froid. Le temps restera sec jusqu'à vendredi avec quelques rayons de soleil en fin de semaine. Les températures ne dépasseront cependant pas les 10 degrés. Du côté de Genève, la météo s'annonce très similaire, mais il fera un peu plus frais, surtout le matin. Alors n'oubliez pas votre bonnet et vos gants.